Qu'est-ce que c'est une manifestation? Un mouvement d'abord, un mouvement collectif qui vise à influer sur l'opinion, sur le pouvoir politique, sur le monde. Un mouvement qui relève de la démocratie, de l'expression de la liberté, et dont on peut remarquer ironiquement qu'il est toujours plus ou moins contrôlé. Sans quoi, juridiquement, on ne l'appelle plus manifestation mais attroupement. Comme s'il fallait à tout prix rentrer dans le rang, ce qui semble impossible pour un mouvement qui par essence n'est pas d'accord avec le rang. Mais c'est la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle toujours au sujet des manifestations de débordement, de dérive, d'interdiction, d'absence d'autorité. La manifestation a toujours un problème de légitimité. Or, il se trouve que manifester, c'est aussi le fait de révéler, de rendre quelque chose visible, quelque chose qui peut être intime, secret, caché, quelque chose qui parfois même n'est pas encore très clair. Quand on le manifeste, on le fait être, on en fait preuve, on en fait montre ouvertement, publiquement. Alors que manifeste la manifestation? Qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle montre de nous? Mais peut-être d'abord notre insubordination, le désir, pas forcément de résister, mais de rappeler qu'on en a toujours la possibilité. C'est pas grand-chose a priori. Et certains cyniques diront toujours que c'est voué à l'échec, une manifestation, ou que ça donnera rien. Moi, je crois que ça révèle quelque chose de fondamental et de nécessaire chez l'être humain.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que manifestent mes invités d'aujourd'hui. En tout juste 3 ans et à peine 20 printemps, ils se sont imposés dans la cour des plus grands, prix et trophées en pagaille, adoubement, en veux-tu en voilà. Leurs morceaux totalisent des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Leur 3e album, La Vie de Rêve, sort vendredi. Ils sont frères. Bonjour Big Flo. Bonjour Oli.
Je pourrais t'écouter parler comme ça pendant 2 heures.
Ah ouais, on est bien là.
Très agréable. J'étais parti sur les
mains. Bonjour Big Flo et Oli.
Merci d'être là. Très content d'être là. Merci beaucoup.
Avant toute chose, ce mot manif ou manifestation, il vous évoque quoi, à vous?
Moi, ça me rappelle mon enfance, quoi.
Ouais, pareil.
Bizarrement. Parce qu'on a deux parents qui sont assez engagés quand même et qui nous amenaient sur leurs épaules faire des manifs. Moi, je me souviens, la plus grosse manif qu'on ait fait, c'était à Toulouse. On vient de Toulouse, nous. Et il y a eu, du coup, à ZF.
Ouais, cette tragédie-là.
Cette tragédie. Et il y avait eu un grand mouvement. Ouais, plus jamais ça. Et on était sortis dans un journal.
Ouais.
Dans la dépêche. Il y a une photo de nous avec deux pancartes marquées plus jamais ça. C'est ma toute première manif.
Vous êtes les spécialistes pour vous afficher en fait de les manifestations, puisque j'ai lu que récemment, sur la route de votre concert à Annéville, vous vous êtes retrouvé mêlé à une foule de gilets jaunes.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une histoire.
On s'est fait bloquer le tourbus. Ouais, c'est vrai qu'on était, on a tout un convoi sur la tournée. On a trois tourbus, 5 poids lourds pour tout le décor, tout ça. Et on s'est retrouvé bloqué au port d'Annéville.
Bloqué, on s'est fait bloquer 3 fois en tout.
Ouais.
Et dont cette fois-là. Et ils nous ont laissé passer en échange d'un petit selfie, en échange d'une photo.
Voyez.
Ça va. En vrai, c'est cool.
Vous êtes des vrais privilégiés. Personne ne me demande des selfies à moi, bizarrement. Mais pour autant, la colère, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous entendez?
Ah, bien sûr.
Ouais, totalement, totalement.
Bien sûr qu'on la comprend, qu'on l'entend et que, en général, quand autant de gens se mettent ensemble derrière une cause, c'est bien qu'il se passe quelque chose, quoi.
Qu'est-ce qu'on en a besoin?
En colère, vous? En ce moment, vous dont les textes n'ont jamais cessé de témoigner de vos convictions.
Moi, ce qui me met en colère, en général, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler comme ça. Moi,
ouais,
ce qui me met en colère un petit peu, c'est cette espèce de, on va dire, désabusement. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais désabusement sur l'écologie, tout ça, un peu de je m'en foutisme et de c'est trop tard, de toute façon, ça ne va rien changer. Alors que, enfin, dès que quelqu'un essaye de faire au moins sa petite part à l'ouvrage, ben, tout le monde se moque de lui un petit peu. Ça m'énerve.
C'est l'idée qu'on croit plus en l'action, en fait.
C'est ça. Mais pourtant, il y a des choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent, surtout dans notre génération. Il y a des mouvements qui se créent. Et j'aime pas trop les cyniques, comme tu disais, qui regardent de loin, de haut, en disant « ça sert à rien, de toute façon ». C'est pas en fermant l'eau de ton robinet que tu vas sauver le monde, quoi.
Je pensais, en vous posant cette question, à un titre de votre nouvel album qui m'a marqué, qui s'appelle « Rentrer chez vous ».
Ouais.
De quoi il parle,
ouais,
ce texte? À qui il s'adresse?
Ce texte, il parle d'immigration et c'est un texte assez complexe. Il me tarde que les gens l'écoutent, il me tarde d'avoir la vie des gens.
Au début, c'est juste une idée. On a un peu inversé la situation. On se retrouve, nous deux, les deux frères, à Toulouse, dans une France en guerre. Et on doit s'échapper, on doit partir, on doit trouver un endroit en paix, un endroit plus calme, quoi. C'est
parce
ça l'histoire.
On parle beaucoup de chiffres, de statistiques, de tout ça, mais je trouve qu'on oublie beaucoup de parler d'humain, quoi, tout simplement. Même si ça paraît bateau, cette phrase, je m'entends la dire et je sais qu'elle est un peu naïve. Mais
ouais, c'est important d'être bateau quelquefois.
Mais c'est vrai, non, quand même, quoi. C'est des gens qui partent de chez eux. En général, on a envie de rester chez soi. Si on part, c'est vraiment pour des bonnes raisons, normalement.
Ça témoigne de quel regard? De quel regard est-ce que vous portez sur la France d'aujourd'hui, vous, en ce moment? Un regard inquiet?
Non, moi positif, positif. Je pense que c'est dû à ma jeunesse, peut-être, un peu naïf aussi, mais... Moi, je trouve ça, il y a plein de choses positives qui se passent. Je pense à Internet, je sais pas pourquoi quand tu me parles de ça. Je pense à tout ce qui se passe sur Internet, tous les gens qui se bougent.
Notre génération, c'est pas pareil, je pense.
Ouais.
On est dans un truc moins...
On dit pas que t'es vieux, Augustin.
Mais... bah, c'est comme ça que je l'ai pris. De toute façon, j'ai l'habitude. Hein. Cette semaine, c'est rock'n'roll. Hein.
Non, mais c'est vrai que on est un pays de râleurs. Et au final, je trouve que c'est une chance. On a le droit de râler, on râle sur tout le temps. Et on est un pays, mine de rien, qui remet en question toujours les choses. Et je trouve ça plutôt positif. Même si au final, tout le monde tire la gueule. Ça fait un pays où tout le monde tire la gueule tout le temps. Mais au moins, on fait avancer les choses, quoi. On se laisse pas endormir.
Cette façon que vous avez toujours de concilier, j'ai l'impression que dans une France que d'aucuns disent divisée, vous faites justement toujours le pari du rassemblement. C'est une question de responsabilité, vous qui êtes suivi, entendu, regardé par des millions et des millions de personnes.
On essaye. Après, chaque artiste appréhende son métier comme il l'entend. Mais c'est vrai que nous, notre métier, on l'entend. Enfin, on veut faire plaisir aux gens, tout simplement.
Moi,
quand je fais des chansons, j'ai envie que les gens ils passent un bon moment, j'ai envie qu'ils aient des émotions, j'ai envie qu'ils kiffent quand ils viennent à nos concerts, je veux qu'ils repartent avec le sourire. Et nous, on n'a jamais rappé pour une partie des gens, une catégorie sociale ou une catégorie d'âge. Tout le monde est le bienvenu pour écouter Big Flo Lee, que vous ayez 80 ans ou 8 ans. C'est vraiment la même
considération.
On fait pas de jugement de valeur. Dans notre public, on va dire, quoi.
Bah, on va continuer à en parler, évidemment, mais pas avant d'avoir un petit peu rafraîchi la mémoire de l'auditeur de France Inter, qui peut être un petit peu amnésique. Parfois, je m'en suis rendu compte. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Big Flo et Oli, c'est ça.
Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Diego est chanson de l'année aux dernières victoires de la
incroyable.
Musique quand même, plus de 150 millions de vues sur YouTube, rien que ça.
C'est vrai.
Et puis Big Flo et Oli, c'est aussi ça quand même.
Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Et Nicole Ferroni est rentrée en régie et elle danse sur Big Flo et Oli. Et Big Flo et Oli, une dernière quand même pour la route, le premier extrait de votre nouvel album, tiens.
Faut pas que t'y penses, ne pense plus à rien, 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 rien.
Demain, ça vous angoisse demain, vous ?
Non, je crois pas. Je crois pas que ça m'angoisse, mais on essaie d'être positif. Je sais que c'est chiant.
Ah non, au contraire.
Non, ça fait du bien, on en a besoin.
Ah ouais.
On essaie d'être positif. Moi, franchement, quand je vois... Bon, j'ai 25 ans, mais je commence à voir les nouvelles générations, ceux qui ont 15, 16 ans. T'as vu, je parle comme un ancien.
Ça y est,
c'est fou, non ?
Il est sur France Inter, il fait l'adulte. Là,
il fait l'adulte. Ouais. J'ai mis un pull pour France Inter.
Moi, je dis chandail, je dis pas pull.
Ah, chandail, ouais, alors
c'est chandail. Autant qu'à être vieux,
c'est
autant être
pire, là.
J'ai compris le message, Big Flo.
Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses cool qui se font. Et en tout cas, on est une génération, je trouve, où il y a de moins en moins de frontières, quels que soient les pays... quels que soient les âges, tout ça, je trouve ça bien, moi. Je pense que cette génération va apporter du bien, il me semble.
Moi aussi, j'y crois.
En fait, j'ai pas envie de devenir... j'ai 25 ans, je suis un peu à la frontière du vieux con. Et j'ai pas envie d'en...
T'as encore un peu le temps.
Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre quand même à 9h16 sur France Inter ? J'ai 25 ans, je suis à la frontière du vieux con.
Non, mais c'est vrai, c'est le tout début. C'est le tout début où tu peux commencer à dire « Ouais, ben nous, Pokémon, à notre époque, c'était des vrais. C'est pas comme maintenant, ouais, les jeunes, la musique qu'ils écoutent. Ben nous, le rap de notre époque. » Et j'ai pas envie de devenir comme ça, quoi. J'ai vraiment pas envie de devenir ça.
On a entendu un extrait du titre qui s'appelle Papa, qui est un de vos grands succès. Votre père, il était musicien et vous lui rendez hommage. Musicalement, qu'est-ce qui vous a transmis à tous les deux ?
Beaucoup de chansons. Déjà, on a beaucoup écouté de musique grâce à lui. On a passé notre enfance dans les coulisses de son bar-restaurant qu'il avait à l'époque, le Barrio Latino à Toulouse, les connaisseurs.
Ce qui est marrant, c'est qu'on a longtemps été les fils d'eux. On a longtemps été les fils de notre père Fabien. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le père d'eux. On a un peu inversé les rôles, mais c'est quelqu'un qui nous a donné des vraies valeurs, comme tous les papas, mais lui, ce qu'il nous répétait tout le temps, c'est « Los hermanos son unidos », comme los dedos de la manos. Ça veut dire les frères sont unis comme les deux doigts de la main.
Ouais, et puis aussi, dans la musique, on l'a aussi vu galérer. C'est un intermittent du spectacle. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il y a des moments où il n'avait pas de concert, où ça le déprimait aussi. Et ça nous a appris aussi qu'on a de la chance d'être écouté, quoi. Qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique.
La réalité du métier d'artiste.
C'est dur. Ouais.
Et la musique qu'il vous faisait écouter, l'environnement musical dans lequel vous avez grandi, c'était de la musique d'Argentine ?
Musique argentine.
Ouais, cubaine aussi, beaucoup de musique cubaine, la salsa, des folklores aussi argentins, ouais, c'est vrai. Beaucoup.
Mais,
hein.
Malheureusement, ça a plutôt eu le tendance à nous en dégoûter, on va dire. Non, ouais. C'est vrai, comme il y en avait trop tout le temps, notre père y chantait de la salsa. Aujourd'hui, bon, bien sûr, j'ai beaucoup de, voilà.
De respect,
mais je peux plus en entendre, quoi. J'en ai trop entendu, je peux plus entendre de la salsa.
La découverte du rap, elle s'est fait quand alors?
Elle s'est faite de manière, on est, Oli dit dans un texte, le rap, j'y suis arrivé par hasard, j'y suis resté par amour.
C'est vrai.
Et c'est complètement vrai parce que le rap, on n'était pas du tout destiné à ça, on n'avait pas de grand frère qui nous a filé de CD, on n'a pas eu le fameux tonton, tu sais, qui initie au rap, avait les CD en disant écoute ça.
Oh là là, alors là, c'est vrai qu'on voit un écart de génération, hein, parce que le tonton qui initie au rap, moi, dans ma génération... Là,
ah ouais, ça n'existait pas.
Ah ben non. Évidemment.
Ah merde, ouais. C'est toi le tonton qui initie au rap.
Voilà. Écoutez, moi, je vais sortir du studio, tant qu'on y est.
Non, c'est que de l'amour.
C'est vrai qu'on est, en fait, on est tombé dessus à la radio, tout simplement, un jour. On était déjà passionnés de textes. On était deux frères, on faisait de la poésie. Notre mère nous faisait écouter des chansons de Cabrel, de Benabar, très fan de chansons françaises. Et donc on était dans ce mélange, on était au conservatoire, à la fois on aimait écrire. Et un jour on tombe sur le rap à la radio.
Ça réunissait les deux en fait.
Ça a ouvert une porte. Ouais.
C'était quoi? Quel rap?
C'était Sully Céphile.
Ouais, Sully Céphile,
je sais pas si tu te souviens à l'époque.
Premier rap, c'était un gars qui racontait une histoire d'un mec qui venait de faire un braquage pour sa famille, etc. Et ça nous a mis une claque. Je me revois dans la voiture avec Flo.
Je m'en souviens encore de ce jour, hein. Vraiment.
C'était énorme.
C'était la rencontre, quoi.
Et vous vous êtes dit, on va mettre à profit notre éducation musicale, celle du conservatoire, justement, pour faire ce type de musique tout de suite.
Ouais, tout à fait.
Directement, ouais.
En fait, on n'a jamais réfléchi trop à ça. On n'a jamais été complexé. On s'est jamais dit, on fait du rap, il faut absolument qu'on cache qu'on vient du conservatoire. Ou alors, il faut absolument qu'on cache qu'on vient de Toulouse. Comme on avait vraiment un environnement bienveillant où tout le monde nous disait « Ah, c'est cool que vous rappiez ». C'est un peu propre à Toulouse, ça aussi, je pense. Les gens, ils s'en foutent, quoi. Si tu rappes, quoi. Ils s'en foutent.
Les gens s'en foutent en général de beaucoup de choses.
Oui, à Toulouse. Et du coup, ouais, on a de suite intégré un peu de trompette dans le rap, intégré un peu de batterie.
En live aussi, beaucoup.
On rappait au conservatoire.
Vous savez qu'il y en a une qui se fout de tout dans cette émission, c'est épouvantable, elle s'appelle La Culture, et son actualité parasite, inutile, c'est d'ailleurs toute sa beauté, nous plaît. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 21 novembre? Chris. Dame, dis-moi, mais dis-moi quoi? Bah que la chanson Girlfriend, version anglophone de Dame, dis-moi de Chris, ex-Christine and the Queens, a été élue chanson de l'année 2018 par le très prestigieux magazine américain Time. Wow. L'hebdomadaire écrit qu'avec ce titre, Chris prouve que les limites de la pop sont aussi fluides que la question de l'identité, si on est capable de s'affirmer aussi bien qu'elle. C'est vrai que c'est classe. Angoulême, un peu beaucoup à la folie, le Festival international de bande dessinée d'Angoulême, qui se tiendra du 24 au 27 janvier prochain, vient de révéler sa sélection d'albums en compétition. 45 titres se disputeront le Fauve d'Or, mais on n'en dira pas beaucoup plus pour l'instant, parce que j'ai l'immense honneur de faire partie cette année du grand jury, présidé par Dominique Goblet, aux côtés des formidables Pénélope Bagieux, Charlotte Lebon, Pauline Croquet, Jérôme Briot, Édouard Fourré-Colfuti. Hâte de s'y mettre, les amis.
Poil court, absolument, même si on croit que le poil court égale moins de poils sur les vêtements, ce qui est faux, parce que le poil court se tisse.
On parle de prix qui ont du chien. L'honorable jury du prix 30 millions d'amis, genre de Goncourt Animal, où l'on trouve notamment Michel Houellebecq, a désigné ses lauréats 2019 hier. Résultat, la vidéaste artiste Solange est récompensée pour son autoportrait en chienne, paru à l'Iconoclaste, tandis que le philosophe australien Peter Singer est sacré pour Théorie du tube de dentifrice, consacré à la défense de la cause animale et publié aux jeunes éditions de la Goutte d'Or. Miaou.
«
Et mercredi de manif ciné jouissif, car aujourd'hui dans les salles, on tombe sous le charme d'Amanda, le drame sensible bouleversant qui révèle une nouvelle facette de Vincent Lacoste devant la caméra de Michael Herz. On part sur les routes d'Égypte, guidé par le poignant Yomedine d'Abou Bakar Shoghi. Et sinon, on se plonge ou replonge dans Hard Eight, le premier long-métrage savamment noir de Paul Thomas Anderson, daté de 1996. À l'aise. Et ce matin, le duo Big Flo et Oli a quelques jours de la sortie de leur nouvel album La Vie de Rêve, un album où vous nous parlez d'aujourd'hui, hein, évidemment, mais aussi de musique, de rap. Je pense à ce titre, c'est que du rap, où vous dites « Allô les rappeurs, ça faisait longtemps, on a fait chanter toute la France comme une chorale, en attendant des imposteurs ont fait de l'argent, t'en avais presque oublié ce que c'était le bon rap ». Alors la question, évidemment, vous me connaissez, je vous la pose, qu'est-ce que c'est le bon rap?
Ça c'est quand on est un peu énervé,
quand on fait les beaux et qu'on regrette en interview, tu vois. Ça c'est, tous les rappeurs connaissent cette sensation.
Ça ouais, t'as pas cette ambiance là dans ta tête à 9h30 du matin.
Non quoi, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui fait pour vous le bon rap? Qu'est-ce que vous allez chercher en tant qu'auditeur et aussi en tant qu'artiste?
Pour moi,
oui bien sûr,
titre personnel hein, bien entendu, c'est les textes. Pour moi les textes c'est la base vraiment de ce qu'est le bon rap pour moi. C'est-à-dire peu importe la forme, tant que j'ai un texte qui me touche. Qu'il y ait un breakbeat ou pas derrière, qu'il y ait du piano, je m'en fous un petit peu. Tout ce que je veux c'est que le texte me touche.
Ça veut dire qu'il peut y avoir un déficit de texte aujourd'hui pour que vous en soyez un jour à écrire ça?
Ouais. Après, on en rajoute un peu pour, comme je t'ai dit, pour faire un peu les beaux et pour les gauteries, pour la rime. Mais c'est vrai que parfois, en tout cas, il nous manque un peu de diversité. On aimerait bien plus d'histoires, plus de storytelling, voyager un peu plus.
C'est des histoires de mode aussi. En ce moment, la mode est plus justement au rythme, tout ça.
À la forme,
aux instrus, on a envie de danser, on a envie de bouger. Et je trouve que du coup, on a de moins en moins un petit peu, tu vois, mais le côté
aussi,
vieux con qui arrive là, tu l'entends?
Non, mais c'est
il y a
aussi
de moins en moins. Ah non, j'aime
et
pas
c'est
ça.
Intéressant, une musique qui s'interroge constamment, qui se juge constamment, qui se regarde aussi constamment.
Totalement.
Et ça me fait penser à ce qu'a déclaré récemment Kerry James sur le fait que le rap était devenu une musique capitaliste, que c'est un art à l'agonie. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça?
C'est un peu négatif.
Ouais, c'est un peu dur de la part de Kerry, mais...
Ben, Kerry James, ça fait partie des dieux
du
rap, des très grands.
Ouais,
et ils sont là, ils sont un peu là pour nous mettre, tu vois, les petites claques de temps en temps pour qu'on se réveille. C'est leur rôle, tu vois, aussi.
Derrière la nuque, un petit coup.
Après, je serais pas aussi.
Pas trop fort, sinon c'est le coup du lapin, ça fait très
je cool. Serais pas aussi négatif parce que je trouve qu'il y a plein de nouveaux rappeurs, il y a plein de choses qui se passent. Le rap est en train de vivre une ouverture énorme. Il y a plein de choses nouvelles qu'on aurait jamais pu penser qui sont en train d'arriver. Il y a des rappeurs qui parlent de leur rupture amoureuse, qui commencent à dire qu'ils sont un peu nuls avec les meufs, des rappeurs avec des cheveux longs et tout. Non mais tout ça, c'est
des rappeurs gays.
Ouais, c'est vrai. Mais tout c'est ça, vrai. Ça paraissait impensable il y a encore, je sais pas, 5 ans. Et je trouve ça cool que le rap s'ouvre comme ça.
Ça rejoint la question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, mais une responsabilité aussi musicale dans ce que vous disiez. C'est intéressant parce que votre succès et votre immense popularité, elle vous attire aussi parfois un certain nombre de critiques, notamment certains qui disent que vous faites un rap pour enfants. Alors moi, ça m'a beaucoup interrogé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait bien dire?
C'est quelque chose qui revient souvent.
C'est la phrase qu'on nous sort, je pense, un peu pour essayer de nous énerver ou nous déstabiliser. Et ça marche pas des masses, déjà parce qu'il y a pas, évidemment dans notre public, il y a pas que des enfants qui nous écoutent. Sur les zéniths, tu vois qu'il y a vraiment tous les âges. Et puis j'aime pas ce côté de dénigrer les enfants, comme si quand on a moins de 13 ans, tout ce qu'on écoute c'est nul, ça a aucune valeur.
Mais est-ce que ça dit pas aussi quelque part votre résistance à un rap hardcore, transgressif, plus violent, ça vous intéresse pas trop?
Ouais, on est décomplexé sur ça. On a jamais eu besoin de prendre une position, d'adopter un personnage qui nous correspond pas et tout. Ça encore une fois, ça vient de notre éducation. Nos parents nous ont toujours dit vous êtes bien comme ça. On a dit ah ok cool.
En fait, on a voulu faire aimer le rap à ceux qui ne l'aimaient pas. Et je pense que en faisant ça, d'un certain côté, pour certains vraiment du rap, pour pas beaucoup, hein, pour certains on a peut-être un peu trahi la cause. Normalement le rap c'est entre nous, c'est quelque chose de secret, c'est un petit jardin, et nous on a voulu le partager avec les gens. Et donc je pense qu'il y a certains qui se sont dit oh mais qu'est-ce qu'ils font, voilà, parce que pour ça on a dû casser quelques codes.
Mais j'aime bien ce que dit Oli, j'ai l'impression que ce que vous revendiquez c'est aussi une musique à l'image de la vie que vous avez eue, une vie assez normale somme toute. À quoi elle a ressemblé votre enfance? Qu'est-ce qu'elle avait de si normal?
Qu'est-ce qu'elle avait de si normal, c'est que on a en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on rappait pour nos parents. Je pense que
c'est un peu fou.
C'est rare.
Ah, je sais pas si c'est normal ça du coup.
Mais c'est vrai que quand on faisait des chansons, notre premier public c'était nos parents, et ma mère, elle était assez sévère. On a eu une maman, un personnage d'origine algérienne et tout. très sévère si je mettais un seul gros mot, Augustin, attention à la maison. Non mais vraiment, ça blaguait pas du tout. Et notre père, il était argentin, il parle avec l'accent comme ça. Et
c'est pas écrire.
Si tu mets du verlan et tout, il comprenait rien. Et je détestais quand je faisais écouter un son à mon père et qu'il me disait « je comprends pas, ça va trop
ça
vite ».
Ça va trop vite, voilà. Et pourquoi vous parlez comme ça?
Donc du coup, je pense que ça a en quelque sorte influencé notre art, même encore aujourd'hui. Oui. Parce que notre premier public, c'était ces deux personnes-là. Et ouais, après, sinon, enfance normale, on avait des potes, on n'a jamais fait de galère. Mais tu sais, nous, quand on parle de notre enfance, c'est vraiment pas du tout glamour. On n'a jamais fait de conneries. On a vu ouais, plutôt est, des bonnes
on,
notes.
On nos était... nous ont toujours donné plein d'armes, en fait.
Et comment vous l'imaginiez, votre vie, plus tard, quand vous étiez petit?
Comme ça, on voulait la vie
comme
de
ça,
rêve.
Ouais,
c'est vraiment. Pour ça que cet album qui arrive vendredi s'appelle La vie de rêve, parce que on la voulait, cette vie de rêve. On voulait s'échapper du quotidien. Pourtant, il n'était pas, comme on te le dit, il n'était pas horrible ce quotidien, mais on avait envie de passer de l'autre côté du miroir, quoi.
On va écouter un petit peu de cette vie de rêve, alors.
Allez.
Avec un titre qui s'appelle Plus tard, un nouvel extrait de votre nouvel album.
Avec plaisir. Donc,
Big Flo et Oli.
Vous êtes sur France Inter avec Big Flo et Oli.
Tu connais, non?
Je crois que je connais. C'est bon, hein.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose.
On me disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Pas ranger les questions que je me pose.
On me disait
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière.
Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Donc en fait, depuis le début de l'émission, j'essaie de me demander à quoi il ressemble. Et c'est vrai qu'on est quelque part entre Tic et Tac, les frères Gallagher et Eric et Ramzy ce matin, avec leur mine fripouille, leur œil de farce et attrape, leur sourire qui tire un petit peu la langue comme ton émoticône préféré. Jamais à l'abri d'une peau de banane, d'une boule puante, d'un peu de poil à gratter. D'ailleurs, maintenant, vous me faites penser, c'est vrai que ça commence à me démanger ce matin. Il y en a un qui a un sweatshirt à capuce rose saumon, l'autre un pull marron, noir, blanc, rayé. Les rappeurs Big Flo et Oli, invités de Boomerang ce matin pour parler de musique. Et j'aimerais qu'on revienne un peu aux origines, justement, aux origines géographiques. D'abord, vous êtes né à Toulouse, vous le dites, vous l'avez dit ce matin. Et je sais que cette ville, elle compte énormément pour vous. Quel territoire est-ce que c'est encore aujourd'hui, Toulouse?
On le revendique, ouais, très très souvent. Toulouse, je dirais que c'est un territoire de mots, je pense. Les mots sont très importants là-bas. On respecte les mots, on respecte les gens qui savent bien parler, on respecte les gens qui savent bien écrire. Ben forcément, on a eu quand tu viens de l'école de Nougaro,
Fabulous Troubadour, les Zebda.
Il y a plein de groupes comme ça de Toulouse et d'artistes qui sont des artistes souvent de mots, de textes, quoi. En fait, premier lieu.
Là-bas, tout le monde se chambre. Il faut être bien réveillé. Il faut avoir une bonne répartie. Sinon, tu tiens pas le coup à Toulouse.
Ouais, tu peux pas, avoir la tête.
Même les chauffeurs de
le
bus, tu vas chez l'épicier, faut envoyer direct, quoi.
Il y a un titre qui s'appelle Bienvenue chez moi, qui est une sorte de célébration de toutes les villes dans lesquelles vous avez chanté.
Ouais.
C'est un titre que j'aime bien. Et vous dites, une journée à Paris, Notre-Dame a fait une scène. Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent.
Oui, alors c'est marrant que tu aies cité cette phrase parce qu'elle a beaucoup plus de fond que ce qu'on peut croire, parce que pour nous, l'arrivée à Paris, ça a été un vrai choc. On a fait de la musique à Toulouse tranquillement dans notre coin, dans notre petite bulle, on va dire.
Ouais,
et
totalement.
On était vraiment je déteste le mot province et provincial, mais je vais l'utiliser là, je le déteste. Mais on était vraiment les deux petits provinciaux qui arrivent à Paris et qui se prennent une claque, parce qu'ici les règles sont différentes, il y a tout ce milieu, il y a le milieu de la musique parisienne.
C'est plus dur aussi, il y a un regard un peu moins bienveillant parce qu'il y a plus de choses aussi ici, c'est pas pareil, quoi.
Et ça se sentait sur les mots, justement, ce décalage, sur la langue, sur l'accent?
Oui, un petit peu.
Un petit peu,
mais ça s'est senti aussi sur cette... On est arrivé un trop naïf, je crois, pour Paris parfois. Et Paris a eu du mal, je parle de Paris comme si tous les Parisiens étaient comme ça, mais Paris a eu du mal un peu à comprendre Big Flo et Oli dans les débuts, en disant, mais qui c'est ces mecs là, ces deux mecs, comme tu dis là, avec leur pull rose là, et leur tête de farce et attrape, qui viennent faire du rap, on ne comprend pas.
Et d'ailleurs, pendant longtemps, on remplissait partout,
sauf à Paris,
quoi.
Ce qui est l'inverse d'habitude.
On se retrouvait à faire des salles ici de 600 personnes, alors qu'on commençait déjà à faire du 1500, 2000 personnes partout en France, et ça a mis un peu de temps, et...
Ça y est, c'est équilibré.
Totalement rééquilibré aujourd'hui.
On a le Bercy là qui est complet dans deux semaines, donc ça va.
Alors, vous pouvez pas sur France Inter dire le mot Nougaro et que je vous interroge pas dessus. Là, vous l'avez prononcé, le mot Nougaro.
Ouais.
Vous l'avez beaucoup étudié, écouté, ce grand artiste toulousain. Évidemment,
oui.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Il représente un modèle. Il plane un petit peu au-dessus de cette ville.
C'est l'ange gardien de Toulouse. Hein.
Ouais. Mmh. C'est ce que j'allais dire, il a un truc presque, on l'a sanctifié presque chez nous. Il a des statues, il a des tableaux
partout. Viens à Toulouse, tu le vois partout. Hein. Ouais.
Et moi en fait, ça me fait toujours un peu, tu vois, je suis toujours un peu triste quand je parle de Nougaro. C'est un de mes plus grands regrets de la vie, c'est de pas avoir au moins son avis. Même s'il m'aurait dit, c'est de la merde ce que tu fais, j'aurais aimé l'entendre dire, quoi.
Ah, c'est vrai.
Ouais,
j'aurais aimé
accent,
avoir
son
avis. Je sais pas ce qu'il aurait pensé de Big Flo et Oli, et ça, ça me fend le cœur. On a eu
la chance de croiser Hélène et Cécile, sa famille et tout. Et c'est vrai que c'est un gros regret qu'on a, mais on l'écoute.
Qu'est-ce qui vous fascinait chez lui? Son rapport aux mots, justement, à la langue?
Oui, bien sûr. Et le charisme, la légende, même, il paraît que quand il arrivait en soirée, les gens savaient qu'ils allaient passer une bonne soirée parce que Nougaro était là, quoi. C'est ce genre de vraie figure, quoi, de personnage, et j'admire ça.
Et sa plume, moi, j'aime bien son côté faussement simple, quoi. Il en fait pas des tonnes. J'aime bien quand l'écriture, elle touche directement au cœur, et je trouve que c'est vraiment là où il est très fort, Claude Nougaro.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, vous, justement?
On sait même plus.
Je sais. On était deux petits assez étranges. Hein. On écrivait des poèmes, des histoires comme ça. Moi, je me souviens, mes tout premiers textes, je devais avoir 5-6 ans, quoi.
Ça parlait de quoi?
Ça parlait, oh là là, c'était pas grand-chose.
Les berceuses
hein.
À la poubelle et le rap dans le soleil. Voilà, écoute,
ça,
on a tous
nos
débuté.
Premiers textes.
Alors, vous pouvez pas faire ça sur France Inter, je vous réinterroge pas dessus. Les berceuses dans la poubelle et le rap dans le soleil.
C'était la première punchline, Augustin.
C'est une bonne punchline. Je vais peut-être la noter pour pouvoir la ressortir à un invité.
Non, mais c'était notre tout premier rap, ouais. Et on était un peu tu sais, il y a parfois dans les familles, il y a les petits phénomènes, les petits qui peuvent pas s'empêcher de faire des spectacles là, pendant le café, pendant les repas.
Un peu les casse-couilles aussi, on va pas se mentir.
On forçait les gens à regarder nos spectacles.
Mais vous écrivez tout ensemble, encore aujourd'hui?
Oui.
Tout le temps, ouais.
Tout le temps. En vrai, le processus créatif, ce qui est marrant, c'est qu'il a pas trop changé depuis même cette époque-là. On se met dans une salle tous les deux, on s'imagine des trucs, on rentre dans des mondes et après on le sort aux gens, quoi. Et ça a pas trop changé depuis qu'on a 11
depuis
ans.
Depuis le début,
final.
Ouais, c'est vrai.
Alors il se trouve que vous nous avez fait un cadeau ce matin, Big Flo et Oli, celui de dévoiler un extrait inédit de votre nouvel album qui sort vendredi et nous l'interpréter en direct ce matin.
On a fait une espèce de petit medley, c'est une espèce de petit freestyle de couplet de l'album, spécialement pour vous, écoute.
Ouais, écoute, alors on lance le boomerang, il faut que vous le lanciez.
Il faut faire le geste.
Ouais, carrément, mais allô là.
C'est un plaisir.
Ah, attention, attends, est-ce qu'on est prêt et tout? Tout le monde est prêt?
Ouais.
Ok, c'est
parti. Moi, je sors mon texte si jamais j'ai un petit trou, on va pas se mentir.
Mais c'est bien.
Ah, tu mets le texte? Ouais, ça va pas être beau, hein, la vidéo.
Regarde. Bon.
Voilà, tu vois les frères commencer?
Allez.
Voilà.
Lancé.
C'est envoyé.
Yeah. C'est notre carte blanche en direct sur France Inter.
J'aime pas le matin.
Non.
Hey. J'aime pas le matin.
Non, j'aime pas le matin.
J'aime pas le matin.
Je te jure.
Non.
Yeah. Oli, dealer. C'est vrai, depuis j'ai pris de l'âge, mais j'ai gardé le talent. Les enfants, je laisserai des punchlines sur mon testament. Et j'entends l'appel d'une vie simple, du soleil et des potes. Mais je veux marquer mon époque, on parle jamais de moi comme le mec d'avant. Je veux chanter mes chansons un soir devant des milliers de fans, en extase dans le plus grand stade de ma ville. Voir tous mes potes en costard derrière moi, dire oui jusqu'à que la mort nous sépare devant la femme de ma vie. Mais des fois j'ai le cafard, je reste planqué dans l'appart, attendant que mon désespoir se barre et disparaisse. Moi je crois pas trop au hasard, j'ai l'impression d'être à part, mais un soir j'ai entendu mon voisin dire pareil. Indécis, un rien peut me faire basculer, je te le rappelle. Je déclenche un incendie avec le calumet de la paix. J'ai vite compris que la musique pouvait soigner mes peines. Depuis j'ai calé mon cœur sur le tempo du BPM. Hein? Alors, ça fait quoi d'être artiste? Hein? Entre groupies et détracteurs. En gros, pendant le feu d'artifice. Moi, je regarde les yeux des spectateurs. Je voudrais être un mec bien. Chaque jour, j'essaie de faire des efforts. Ils connaissent mes refrains. Dire qu'à l'époque, on me fermait les portes. Je les ai doublés car mes couples, les souples, les couples, les souffles, les couples, les tous, j'étouffe les fous. Je viens de Toulouse, mais je garde le nord. Non, monte le son, bouge la tête. Je sais qu'au fond, tu doutes, même si t'en as pas l'air. J'ai dit, monte le son, ouvre la fenêtre. Profite d'un freestyle matinal en live sur France Inter.
J'aime pas le matin.
Je te jure, moi j'aime pas le matin. Ah, je déteste,
j'aime pas le matin.
Mais je lâche un freestyle matinal pour Augustin.
J'aime pas le matin,
je déteste ça.
J'aime pas le matin.
Je me suis couché à 4h donc j'aime pas le matin. Mais je lâche un freestyle sur France Inter et pour Augustin.
Hey, on m'avait dit tu serais une star.
Hey,
Matou, j'en suis 15 ans plus tard.
Matou, j'en suis.
Hey, pourtant je suis souvent dans le noir. Hey, à la recherche d'un peu de clair. J'escroque les escrocs, mon rap c'est de l'art, mes albums c'est des expos. Ex-pauvre, j'ai peur de me perdre depuis que j'encaisse trop. Tout a changé depuis que je vois plus le prix des plats au resto. Du mal à fondre dans la masse, comme si j'étais un exto. Là, ils pensent que j'ai des femmes, pensent que j'ai des liasses, pensent que j'ai des armes, comme si j'étais esco. Bar. Allez voir un psy, je crois que ça m'aiderait.
Ah ouais, je confirme.
Parce que le pire c'est tout ça, c'est à moitié vrai. On se bat pour des râleurs, du respect et de la thune. Mais on ne voit que double vue de la lune. Et comme j'ai beaucoup rappé, des fois je me mets à chanter.
Ah ouais.
On l'a pris de la graine, donc on n'est pas prêt de se planter.
Non.
Je bosse toute la semaine pour trouver des thèmes. Big Flo et Oli sur France Inter. Enchanté. Yeah.
Avec moi.
J'aime pas le matin.
Je te jure.
J'aime pas le matin.
Je déteste ça, mais
j'aime pas le matin.
Mais je lâche un freestyle matinal pour Augustin.
Yeah, j'aime pas le matin.
Augustin avec nous, ça fait.
J'aime pas le matin.
Non,
j'aime pas le matin.
Mais je lâche un freestyle sur France Inter et pour Augustin. Yeah.
Oh là là, j'aime bien le matin, moi, du coup. Sur France Inter. Merci beaucoup, Big Flo et Oli, d'être
venus
faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La Vie de Rêve, votre troisième album, sort après-demain. Vous êtes actuellement en concert. Vous serez notamment après-demain justement à Amiens, puis à Tours, à Bordeaux, sans oublier votre concert à l'Accor Hotel Arena le 8 décembre, je crois.
Oui. Vous êtes le bienvenu si t'es là ce jour-là.
Eh ben, on y sera, toute l'équipe de Boomerang, que je remercie.
On vous met des
aujourd'hui. Invites. Eh ben, j'espère bien. Évidemment, les auditeurs de France Inter peuvent retrouver cette carte Blanche en vidéo. Ouais. C'est une certitude. Tout de suite, les médias.
Je peux venir moi aussi au concert avec
mes
garçons.
Non, vous n'êtes pas invité. Ça n'est pas la même émission.
J'ai deux petits garçons.
Elle veut toujours s'incruster dans Boomerang. Je peux plus la voir.
On va essayer. On va essayer.
Ils sont fans absolus de Big Flo et Oli.
Mettez-vous d'accord. Faites une liste et on s'arrange.
On les emmènera également.
Merci beaucoup les amis.
Salut Sonia.
Bon, je commence une émission où mon invité n'est pas arrivé.
Mais... vous allez voir, c'est délicieux, ça m'est arrivé avec Ken que j'en dis l'année dernière, il y a 3 ans.
Si Big Flo et Oli veulent venir dans le studio, continuer de rapper, enfin faire ce qu'ils veulent, je suis preneuse.
Si tu veux meubler, on peut t'aider. On peut
voir avec notre manager Augustin.
J'ai pas changé de studio, venez au 500, faites quelque chose pour m'aider. Bon, salut les amis.
Bon courage,
salut.
Ciao, ciao. On vous écoute.
Merci.